jackass from sun to sun. Niggas scared, pretend they don't see. Deep down, dirty dog scared.
Just like you, sweetback.
Just like I used to be. Work your black behind to the gums. And you supposed to time us till he done.
You got to time us, sweetback. They beg your brother. They beg your sister.
Yeah, but he won't bleed me.
Thank you. Un petit peu de calme, a vial of calm pour commencer cette émission du Coton Club ce soir. On s'est fait plaisir parce qu'on n'avait pas eu le temps de l'écouter en entier lors d'une des dernières éditions de cette émission. Voilà qui est fait. Bonsoir à toutes et à tous, le premier et le troisième lundi du mois de 19h à 20h30, c'est le Coton Club qui ouvre ses portes. Entrez ce soir pour vous accueillir son et lumière Sébastien, une fois n'est pas coutume, toujours Monsieur Watt pour les palabres et la sélection musicale. Le premier et le troisième lundi du mois, des soirées au Coton Club sur les ondes de Radio Grenouille, des soirées placées sous le signe du décloisonnement des musiques. Né des échanges transatlantiques, souhaités ou pas, dans le fil de l'histoire complexe entre l'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde, comme disaient nos ancêtres. Une histoire dont le fil se déroule sous vos oreilles ébahies sur la scène du club pour le plus grand plaisir de l'écoute et de la danse, en tout cas, nous l'espérons. Le fil de l'histoire, ou plutôt ces lignes brisées aux motifs fascinants, exposées ici, en toute subjectivité, avec un dilettantisme assumé et une bonne humeur qui ne connaît comme barrière que celle de l'ego surdimensionné de Monsieur Watt, il faut bien le dire. Le Coton Club, c'est de la musique, mais pas que. Comme le savent ceux qui font partie de sa clientèle assidue. Il arrive en effet que Monsieur Watt décolle ses oreilles des écouteurs pour lire un livre, par exemple, ou encore pour écouter ce que peuvent avoir à dire des invités triés sur le volet, bien évidemment, ce soir. C'est deux en un. Le livre en question, c'est Banjo, de Claude McKay, et les invités, c'est Moussuté et les Jovens. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, voilà, un seul Jouvet, bonsoir. Parce que c'est deux Jouvet, il paraît que c'est plus possible.
Un seul jeune, il s'agit de Blue.
Sinon, ouais. C'est trop, ça fout trop le why en fait.
Et Tatou, alias Moussuté, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation dans le club ce soir. On est ensemble jusqu'à 20h30 si vous le voulez bien, mais vous êtes libre de partir quand vous voulez, hein, y a pas de problème. De rester autant que vous voulez aussi. On a choisi Banjo comme prétexte à la sélection musicale de ce soir qui sera librement inspirée de ce livre. Alors Banjo, en tout cas pour l'édition qu'on connaît, il s'agit ça a été édité par André Dimanche éditeur dans la collection Rive Noire. C'est un bouquin écrit par donc un certain Claude McKay, écrivain d'origine jamaïcaine, de nationalité jamaïcaine. Il a écrit ça entre 1927 et 1928, entre Marseille et Barcelone. Et c'est un livre qu'on pourrait résumer, qui est un peu deux volets, on dira. D'abord, c'est une sorte de série d'épisodes qui se déroule à Marseille, à cette période-là, un petit peu avant la grande crise, sans véritablement d'intrigue, mais vraiment sur le modèle des épisodes qui se succèdent. Ensuite, le deuxième volet, c'est une sorte de déroulé d'une philosophie internationaliste de la négritude avant l'heure, je dirais. Banjo, chez André Dimanche éditeur en 99, mais Tatou, toi tu es venu avec une édition plus ancienne apparemment, dont je ne connaissais même pas l'existence.
Ouais, parce que moi je suis vachement vieux, donc moi j'ai l'édition, l'édition des années 30 quoi, qui a été traduite par Paul Vaillant Couturier, que j'aime beaucoup parce qu'en plus c'est un vieux livre, et donc comme tous les vieux livres il sent vachement bon. Et je voulais dire que je savais où il avait, je crois savoir où il a commencé à écrire Banjo, parce que là j'étais justement en train de lire sa biographie à Claude McKay,
qui est sorti chez André Dimanche aussi.
Voilà. Et en fait il dit: je finis par choisir La Ciotat.
Tiens donc.
Une ville d'environ 8000 habitants à mi-chemin entre Marseille et Toulon. Voilà, donc je pense que les premiers chapitres de Banjo étaient écrits dans un hôtel à La Ciotat où il se gelait les couilles parce qu'il met plus loin que... En fait, l'hôtel n'avait pas de chauffage, il était sur le port, et c'est vrai, sur le port à La Ciotat, il n'y a pas le soleil le matin. Donc il était transi, le pauvre Claude McKay. Voilà. C'est un peu parce qu'il est venu habiter La Ciotat qu'on est venu aussi ce soir pour lui rendre donc l'appareil.
La Ciotat qui est le titre d'une des chansons du premier album de Moussuté et les Jovens qu'on a beaucoup passé sur Radio Grenouille.
Et je voulais dire aussi que tout ce que tu as dit est vrai. Tu as oublié un truc, c'est que c'était un type qui était amoureux de Marseille, mais un super amoureux de Marseille. Et il a dit d'ailleurs que s'il avait des endroits à conseiller au monde, c'était un de ces endroits était Marseille, parce que c'était vraiment un endroit où on s'éclatait et où on rencontrait des Noirs de toutes sortes.
Et qu'il invite tous à se rendre à venir à Marseille d'ailleurs, voilà. En disant qu'on s'y sent pas.
Voilà. Et j'espère que c'est tout. J'espère que s'il vivait maintenant, il dirait la même chose. Je ne suis pas sûr de ça.
C'était voilà.
Je ne sais pas, en effet. En tout cas, une bonne partie du bouquin se déroule dans ce qu'il appelle la fosse, qu'on appelait à l'époque la fosse, qui était un peu le quartier réservé.
C'est le quartier du qui est en bas du panier, qui a été détruit d'ailleurs par les nazis, et qui était un quartier réservé, c'est-à-dire le quartier des bordels, en fait. C'est le quartier des... Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, Marseille était... C'était un lieu de tourisme sexuel, en fait, Marseille. C'est-à-dire que les touristes, quand ils faisaient un tour d'Europe, par exemple, les messieurs étaient invités à venir descendre un soir à l'escale à Marseille, où il y avait des guides qui les emmenaient. Ils faisaient donc les maisons de passe, les cinémas porno. Et c'était connu dans le monde entier. C'est-à-dire, le monde entier, on savait que passer un soir à Marseille, c'était un peu comme les types, ils vont en Thaïlande. C'était un peu un truc comme ça, quoi. Et ça se passait dans ce quartier, donc, qui était le quartier réservé, qui, comme donc tous les quartiers qui étaient un peu chapeautés, on va dire, par les voyous, hein, et comme tout, c'est un peu comme Chicago, finalement. Et on sait comme Chicago a finalement financé vachement le jazz, financé les nouvelles musiques, parce que justement il y avait une espèce de mentalité un peu moins bourgeoise, on va dire, que dans les cercles vraiment bourgeois. Et ça s'est passé un peu la même chose, c'est-à-dire que ces bordels, finalement, ces boîtes de nuit, ces maquereaux, ces voyous finançaient de la musique parce qu'ils aimaient bien s'amuser et boire des coups. Et puis il fallait de la musique aussi pour les clients. Donc il y avait là des groupes de jazz, il y avait là des groupes de toutes sortes de musiques, ce que décrit un peu aussi le roman de Claude Maquet.
De la musique, de la danse, des beuveries, des amours de rencontre, des querelles, des combines pour subsister ou pour pouvoir rester en France, des conversations, des blagues, des histoires entre une série de personnages tous plus en couleur les uns que les autres, notamment Banjo, un homme, un Africain plein de sensualité et de bon sens, musicien qui trimballe son instrument. Toi, Blue, tu crois que justement c'est un petit peu l'instrument dont tu es principalement affublé dans Moussuté les Jovens, le banjo.
Ça l'est devenu, puisque grâce à ce livre donc qu'on a découvert en plein enregistrement de Mademoiselle Marseille, on a récupéré un banjo qui est historique pour nous en plus, puisque c'est le banjo qui a servi à réaliser le premier Fabulous Troubadour, qui s'appelle Batteste et Cantari, entre Claude Sicre et Daniel Lodo. Et donc on a eu la chance d'avoir entre les mains, enfin en tout cas moi j'ai eu la chance d'avoir entre les mains ce banjo historique et ce livre plein d'influences et mémorables pour nous. Et donc voilà, c'est vraiment l'histoire du banjo pour nous, est née avec le livre et avec le banjo en plein enregistrement de Mademoiselle Marseille, qui est aujourd'hui notre signature, en effet.
Est-ce qu'il y a... Quelle place y tient ce livre dans vos itinéraires personnels? Est-ce qu'il y a d'autres livres comparables à ce banjo de Claude Maquet?
Moi, il tient une place...
Concernant la description de Marseille, notamment.
Il tient une place impossible. Moi, j'ai fondé un groupe de reggae dans le quartier du Panier. Et... presque 20 ans après, j'ai découvert qu'il y avait un type qui avait écrit un livre qui parlait de mecs qui voulaient essayer de fonder un groupe de, je sais pas, qui joue du jazz pour être, mais on ne sait pas exactement, dans le quartier juste en dessous, quoi. Et que ce mec, en plus, il est jamaïcain. Et que dans le bouquin, on parle de Marcus Garvey, donc il y a une espèce de clin d'œil de l'histoire qui effectivement fait que ce livre est une place importante dans ma cosmogonie, je trouve. Après, que c'est, moi je suis amoureux de Marseille et ça me remonte le moral, c'est-à-dire, je dis, un écrivain jamaïcain, il a déjà il s'est intéressé à Marseille, il est venu, il a placé un truc qui est important mondialement, parce que en fait son truc c'est la prise de conscience c'est la prise de conscience des Noirs, on va dire. C'est à peu près l'époque charnière après la Première Guerre mondiale où il commence à avoir des leaders noirs qui commencent un peu à réfléchir qu'est-ce que c'est d'être noir, qu'est-ce qu'il faut qu'on revendique, comment il faut qu'on s'organise. Donc c'est l'intrigue du livre, elle est mondiale, on va dire. C'est pas du tout un truc qui pourrait se passer qu'à Marseille. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a placé cette intrigue mondiale, donc qui intéresse le monde entier, il l'a placé à Marseille. Déjà, rien que ça, je bombe le torse. Et voilà, le seul truc que je trouve finalement dommage, c'est qu'on ne le donne pas à lire dans les lycées marseillais, dans les collèges marseillais. Tous les petits marseillais devraient connaître Claude Maquet et savoir qu'il y avait un type qui s'appelait Banjo, qui grattait le banjo.
Et ça a été aussi pour nous, on a essayé de recréer ce répertoire dont il parle dans le livre. Évidemment, on ne sait pas ce qu'il joue, mais voilà, ça a été aussi pour nous une espèce de challenge de dire Putain, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien chanter, qu'est-ce qu'il pouvait bien jouer. Enfin, chanter, on le sait, puisqu'il le dit, il parle...
À l'écoute de votre premier album, voilà. Mademoiselle Marseille, bon là il y en a un deuxième, Forever Polydent, on va écouter des extraits des deux, hein. À l'écoute de votre premier album, moi j'ai tout de suite pensé à banjo. C'est vrai que
ouais, bah c'est,
ce mélange qu'on entend de blues, de calypso, de jazz, de...
C'est réel, c'est-à-dire en plus... Une fois qu'on lit banjo, donc ça se, il y a les photos, c'est-à-dire qu'on a les photos du quartier, c'est-à-dire qu'on voit, on a des scènes où on voit des musiciens noirs, des musiciens blancs en train de jouer ensemble, on voit la place des tapeurs là, c'est-à-dire qu'il y a la place Victor Gélu, il y a des photos de ça, on le voit, c'est-à-dire que c'est pas un truc, c'est pas de la fiction, donc effectivement tu peux aussi, je veux dire nous aussi c'était aussi de regarder ces photos, de se dire puis ces mecs, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer, qu'est-ce qu'ils peuvent bien jouer de commun là entre, on voyait cet accordéoniste qui est là qui a l'air d'un italien sans doute, et ce type derrière qui doit être un sénégalais, ce machin, qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble, et en fait non seulement ça nous a, on a inventé ce répertoire, mais aussi ça nous a fait voir tout ce qu'on, par exemple on a vu l'opérette marseillaise comme on l'avait jamais vu, parce qu'on n'avait jamais senti ce... Puis là, d'un seul coup, en le regardant avec cet angle-là, on s'est dit, ah putain, mais oui, là ça swing, là il y a un truc, ça, ce truc-là, ils l'ont piqué, c'est un truc caraïbe.
On a compris plein de trucs, ouais.
Alors, banjo de Mackay, qui a un peu resté donc dans la fosse en une bonne partie de l'année 1926. Comme tu le disais, c'est pas de la fiction, hein, sans doute une bonne majorité des événements sont autobiographiques dans ce qu'on peut appeler un roman. Le personnage principal s'appelle Ray, il est haïtien, c'est un petit peu le porte-parole de l'auteur, voire son alter ego. Et qui figure un petit peu l'intellectuel non occidental, on dira, et qui équilibre le personnage de banjo. Comme je disais, qui lui est un bon vivant, qui se pose pas trop de questions sur après-demain, mais plutôt aujourd'hui, éventuellement demain, mais c'est vraiment au plus loin qu'il accepte
banjo,
de voir.
Banjo, c'est un marin, donc il a ce côté un peu nonchalant, et puis c'est un artiste, c'est un genre de bluesman aussi.
Après, ce qu'il y a plus à tatou, quand même, il le dit pas, mais c'est quand même que le mec qui mange des tripes.
C'est qu'il mange des tripes aussi.
Et
ça,
il boit
fort.
Du vin rouge en cachette sur les docks, en train de siphonner les tonneaux à n'importe
quelle heure. Non, c'est fort parce que ça renvoie des trucs. Bon, par exemple, ce passage, moi, qui me paraît vachement marrant, c'est-à-dire qu'il adore les pieds paquets, tu vois. Le type, donc, il va dans un resto, il n'a pas beaucoup de fric, mais il aime tellement les pieds paquets qu'il demande une deuxième rafale de pieds paquets, tu vois. Et c'est vachement marrant parce que par exemple dans le blues, le plat qui est vraiment associé aux chanteurs de blues clair. Et tout, c'est les tripes, donc c'est marrant de voir qu'il s'est déplacé, c'est-à-dire que le type, en fait, ce banjo qui vient du sud, hein, c'est un type, il vient de Dixie, comme ils disent, c'est-à-dire il vient donc du sud des États-Unis, et en fait à Marseille il se repère comme ça, c'est-à-dire quelque part il aime bien Marseille parce qu'il il mange aussi des tripes, quoi.
D'ailleurs à cette époque-là dans le sud des États-Unis, quand tu étais musicien ou un bluesman plus particulièrement, le but c'était ce qu'il dit, de vivre au jour le jour, et donc de vivre au jour le jour c'était
voyager clandestinement dans les trains,
Surtout d'être embauché dans une boîte où on mangeait des tripes et on pouvait boire toute la nuit, quoi. Voilà,
vive la tripe, vive le pied paquet, vive la Turmette 500 qui a gagné le deuxième prix du concours de l'Open des pieds paquets qui s'est passé il n'y a pas longtemps là. Voilà.
Banjo, jetez-vous sur ce bouquin qui vaut aussi pour la multitude de points de vue qu'il propose, la finesse d'analyse des mentalités de l'époque, toujours souvent, malheureusement, peut-être qu'on pourra dire d'actualité, une critique assez acerbe de la société capitaliste. On ne peut pas dire que Claude Mackay soit véritablement communiste parce qu'il a été guéri par un séjour auparavant en URSS qui lui a fait voir la réalité de la chose. Mais en tout cas, il a sans aucun doute influencé toute la génération des pères de la négritude qui sont venus après, Aimé Césaire, Léopold Senghor, Léon Gontran Damas. Et puis l'actualité de son livre se retrouve dans sa critique du libéralisme sauvage, de l'exploitation planétaire programmée, du racisme qui peut exister en France, mais aussi dans la manière dont il dépeint la joie de vivre, l'absence de préjugés nationalistes et l'optimisme naturel de ces gars du port, de ces marins, clochards, bons vivants, banjo et compagnie. Banjo, justement, c'est le titre du premier album de Moussité et les Jovens, qui sont les invités du club ce soir.
Un titre du premier album.
Un titre qu'on vous propose d'écouter immédiatement.
Allez, bye.
Allez, banjo, amène-toi là-bas. On va se faire caguer. C'est pour des vies, c'est pour des bambous, c'est pour des filles en poulie là, ouais, poulie là.
sana dormire, sai, senza i nostri due piedi. Mai lo sulle ue sana dormì e si hanno incato una vivenda la bucciaria e vuoi ane ane burego banjo burego che farà un refren che sarà padre in la lingua dei general dei general dei general dei general dei general dei general Maxia Maxia ai ma cu poplera Maxia Maxia. Ai vuoi, Maxia, Maxia. E me è un faghe spara da moto, no, no. E un carino giornato che non usa un pacco, un tuco, la lei papier. Ai vai. E un carino giornato che viene scappana, che stupe tante con tuule dei papier. Ai vuoi, ari, 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 burega, banjo, burega. Burega, ai vuoi. Che farà un refren che sarà padre in la lingua da che lei Marco Mau. Maxia, Maxia, al macu poplena. Maxia, Maxia, oh fa, quelli che mamma cudeno, è cansato tutta cova. Maxia, Maxia. E me un faghe spalla da moto. Are, 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 bulega, mangio, bulega. Strubalame o funde la poccia in piscio coca che in core mai la noe non strubalame e medin la poccia che se fa un po' di me vedai ane ane burega banjo burega 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 tutta cova che farai un refran che sarà padin la lingua du capitan du capitan du capitan du capitan du capitan Maxia Maxia. Maxia, Maxia, ai vuoi? Quelli che mamma cudena, ai papà lì vai! Maxia, Maxia, ai ma cu poplena. Maxia, Maxia, quelli che mamma cudena, ai ma bulega va! Maxia, Maxia, oh! E me è un faghe spara da moto, oh no!
Thank you.
Ray s'entretenait avec le propriétaire du bar et un Sénégalais qui expliqua que la bagarre provenait de la rivalité entre dockers italiens et sénégalais. Il y avait beaucoup de jalousie entre les deux groupes et les Sénégalais ne manquaient jamais une occasion de rappeler aux Italiens qu'ils étaient français, eux, et jouissaient des droits de la citoyenneté. « Il n'y a pas de différence entre les Italiens et les Français, » dit le patron du bar. « Ce sont des Blancs. Ils ont tous le même préjugé contre les Noirs. » « c'est pas vrai, » s'écria un marin sénégalais de grande taille en bondissant de son siège. « Ça n'existe pas en France. » « Mais si, ça existe parfaitement, » soutenait le patron. Il était petit et vif et avait des lunettes et un air mélancolique. « La France ne vaut pas mieux que l'Amérique. Tout compte fait, l'Amérique vaut mieux pour un homme de couleur. » Là-dessus, une discussion passionnée commença en Wolof et en français, où se mêlaient des bribes d'anglais. Ray écoutait, enregistrant tout ce qu'il pouvait comprendre. Le patron était un apôtre fervent de l'américanisme et défendit sa position en s'échauffant. Il vanta l'Amérique, son industrie, ses affaires, ses maisons, ses cinémas, sa musique populaire et le progrès et les chances pour chacun, même les Noirs. Il dit que les Noirs savaient au moins à quoi s'en tenir avec les Américains, mais que les Français étaient des hypocrites. Ils parlaient beaucoup, mais rien de ce qu'ils disaient ne passait dans la réalité. Là-dessus, le matelot sénégalais protesta de nouveau en rugissant, envoyant un merde retentissant aux anglo-saxons et aux partisans de leur civilisation, sur quoi le patron l'invita à quitter le café s'il ne pouvait rester poli avec lui, etc., etc., etc. Court extrait de banjo.
C'est quel homme politique qui dit ça en ce moment, là, en pleine campagne hein?
Et c'est vraiment c'est intéressant de voir l'actualité de... Voilà, un court extrait, l'actualité de ce type de conversation qui est retranscrite sans aucun unilatéralisme de la part de Claude Maquet. C'est ça que je trouve intéressant, c'est la multitude des points de vue à laquelle il donne la liberté de se confronter dans son livre. Ça collait bien avec l'enchaînement qu'on a pu avoir de Bolega Banjo, du premier album de Moussité et les Jovens, suivi de ce blues sélectionné par Tatou.
Oui, c'est les tambourinaires, c'était les tambourinaires. Nous ici, on appelait ça les tambourinaires, la tradition flûte-tambour, qui me fait penser aussi à la tradition flûte-tambour brésilienne, des bandes de pifanes du Nord-Est, qui sont aussi des trucs extraordinaires de groove et de... Vraiment, tu écoutes ça quand il y a les pieds qui bougent tout seuls. Voilà, ouais, ce que tu dis, c'est... Finalement, c'est bien aussi parce que c'est valable pour tous les c'est valable pour plein de sujets, pas simplement pour le par exemple les droits de l'homme. C'est aussi valable pour le qu'est-ce que c'est la culture. Il y a toujours cette opposition de savoir est-ce que l'Amérique finalement ça serait pas plus démocratique que ce qu'on le croirait quoi. Donc il y a ça aussi, il y a ce truc. Il faut dire qu'ils étaient dans ce ils sont dans ce questionnement, c'est-à-dire que c'est une période où ils se demandent où il faut aller, quoi. C'est pour ça aussi que ça parle de Marcus Garvey, pas en très bien d'ailleurs, puisque Marcus Garvey, il y a aussi une affaire, donc une espèce d'affaire judiciaire autour de Marcus Garvey.
Escroquerie
donc,
ou pas.
D'escroquerie, voilà.
La Black Star Line.
Voilà, puisqu'il avait monté une société donc qui devait procéder au rapatriement, hein, repatriation, disent les Rastas, c'est-à-dire au rapatriement des Jamaïcains, des Noirs de Jamaïque et d'ailleurs en Afrique. Et qu'en fait, le truc a... Donc il y a vachement de gens qui ont donné du fric pour avoir des parts de cette société. Et puis le truc a foiré. Alors on ne sait pas si ça a foiré exprès ou si c'est... Donc bref, il en parle, il parle de tout ça. Et lui-même, alors vraiment dans sa vie, il a été vraiment, on va dire... directement lié à tout, on va dire, au mouvement, voilà, à ce mouvement de prise de conscience. Et on le classe dans un truc qui s'appelle la Renaissance de Harlem, à côté d'un autre grand poète qui s'appelle Lawson Hughes, qui est un très grand poète aussi. Et voilà, donc lui, c'est son sujet aussi. Il faut dire que c'est un peu le sujet de sa vie, il tourne aussi un peu autour de ça, quoi. C'est un peu aussi, c'est une histoire d'identité finalement, hein, ce qui se demande.
Complètement.
C'est quoi être noir. Son truc, c'est quand même, c'est quoi être noir, quoi.
Et des Africains, des Américains, des Caribéens se posent la question autour d'un verre, oui, ou de plusieurs
à Marseille. Et à Marseille, c'est-à-dire ce qui lui plaît, lui, à Marseille, c'est que justement, c'est le seul endroit où tous ces mecs peuvent arriver et justement avoir des points de vue complètement différents. Parce que leur culture, le fait qu'ils soient Américains ou Africains, leur donne des cultures totalement différentes aussi. Il y a toujours l'affrontement du passage que tu as lu, il est à plusieurs reprises aussi. Par ceux qui s'en foutent aussi du combat, donc qui se sont dit « Oh, mais nous, on est là pour se débrouiller, on n'en a rien. » Et puis, les militants purs et durs aussi, qui sont... voilà, c'est assez marrant. Il y a même à un moment donné une protestante, une genre de religieuse qui débarque de New York pour venir, une genre de baptiste, pour venir convertir parce qu'elle a eu les voix du Seigneur, lui ont dit qu'il fallait qu'elle aille à Marseille. Et en fait, à chaque fois qu'elle dit ça, tout le monde rigole, quoi. Il faut, mais tu es le seul endroit où il fallait pas que tu viennes, et tu es venu, quoi. Donc, voilà.
Alors, avant Moussuter les Jovens, pour ceux qui ne le sauraient pas, Tatou, tu viens du Massilia. J'aimerais bien savoir, depuis quand ce projet, il mature. J'imagine qu'il n'est pas apparu comme ça d'un coup, Moussuter les Jovens. Comment vous vous êtes rencontrés avec Blue et les autres jeunes du groupe?
C'était l'envie de faire un truc... De faire quelque chose qu'on peut faire immédiatement, simplement. C'est-à-dire que c'est déjà simple le son de système, mais c'était encore trop compliqué, quoi. Et souvent, tu es à la fin du repas, par exemple, et tu as envie de chanter un truc, et alors tu comprends, tu n'as pas la platine, le match, c'est assez. Tu me diras, tu pourrais le faire, c'est vrai, avec un petit ghetto, tu mets la cassette, mais moi, généralement, tu n'as pas ça sous la main. Alors que le plus souvent, une guitare, ça peut se trouver, quoi. Donc, il y avait cette idée-là, et comme je suis vachement mauvais en guitare, et qu'il n'est pas terrible en chanson, donc il fallait qu'on soit deux pour réaliser une espèce de chanteur-guitariste qui n'existe pas, mais qui existe par notre réunion, quoi. Après, le fond du, on va dire, le répertoire, il est... Mais je veux dire, il est aussi déjà dans Massilia, ce répertoire. C'est-à-dire ce choix d'illustrer, on va dire, notre univers, nous, Marseillais, en allant chercher des formes ailleurs, c'était déjà fait, quoi. C'est juste une petite translation du style.
Économie de moyens, plutôt acoustique, donc. Pas besoin de brancher les instruments en général. Enfin, en tout cas, dans la ligne de ce que vient de dire Tatou. Une économie de moyens dans laquelle, dans laquelle vous pourriez vous retrouver avec le musicien qu'on va écouter maintenant. On écoutait juste à l'instant un extrait de Feel Like Going Home. Dans la série des films produits par Martin Scorsese, il y a eu une série de BO hautement recommandable. Je vous propose maintenant une réinterprétation actuelle du blues par un monsieur qui s'appelle Son of Dave, qu'on pourrait qualifier de Human Blues Box ou de Human Beat Blues, je ne sais pas trop. Tout seul sur scène, un micro, un harmonica, un sampler, du beatbox et du blues. On écoute Rambling and Tumbling, Son of Dave, sur la scène du Coton Club.
Rolling and tumbling. Rolled in a tumble, I cried all night long. Rolled in a tumble, I cried all night long. I did money, put some shoes on. Yeah.
shoes on.
The river gonna buy me a rocking chair, and I'm going to the river gonna buy me a rocking chair. When the blues overtake me, gonna rock 'em way, way from here. And it's honey pretty mama, Lord, tell me what's the matter now. And it's honey pretty mama, tell me what's the matter now. And you're trying to leave me, baby, and you don't know how. She got a head like a rock, got a mind like a marble stone. She got a head like a rock, got a mind like a marble stone. And the fish and whale gonna take on over her.
Toujours en direct depuis le Coton Club sur le 888 Blow That Kazoo Man. On a entendu tout d'abord Son of Dave, extrait de l'album qui s'appelle 02, tout simplement, sorti sur un label qui s'appelle Cartel, distribué en France par Discographe. Ça sonne vieux et lo-fi, mais ça vient tout juste de sortir. Human Blues Box, Son of Dave, à voir sur scène. On a eu l'occasion de le voir au Transmusical. Là, ça vaut vraiment le détour pour la performance scénique aussi. Et juste derrière, Blue, qu'est-ce qu'on a écouté? C'était ta
on
sélection.
On a écouté Will Shade, ouais. Et c'est vieux, The Memphis Juke Band. Ouais, ouais, c'est un truc de 1927.
Oh putain.
Et c'est en pleine dedans. C'est toute la vague d'immigration du sud vers le nord des États-Unis. où les mecs ils ont fait une carte d'identité qui s'appelle le blues, puisqu'au départ tant que le blues n'est pas considéré par les Américains comme une forme artistique, les Noirs sont des esclaves. Et voilà.
Il a fallu que les Anglais s'en emparent pour que finalement, quelque part, les
pour
Américains
le
ouais, pour le démocratiser un peu finalement. Trajectoire encore une fois transatlantique, un peu brisée et étrange. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va écouter dans un instant un extrait de Forever Polida, pour toujours joli, le deuxième album de Moussuté et les Jovens. Il y a eu très très peu de temps entre la sortie du premier et du deuxième, je trouve que c'est allé très vite. On a vraiment l'impression que vous aviez plein de chansons à sortir et qu'il a, il a pas fallu beaucoup beaucoup de temps pour sortir ce deuxième disque qui en même temps est dans une ambiance un petit peu différente. Explication.
Exact.
Alors,
t'as tout.
Non, il y avait, c'est vrai que le... Bon, je pense qu'aussi c'est le... dès qu'un projet est nouveau, évidemment, tu y mets beaucoup d'énergie. Et donc tu as un gros, tu as de suite un assez gros matériel à exploiter, on va dire. Donc c'est vrai que on avait fait beaucoup plus de chansons qu'il en fallait pour faire Mademoiselle Marseille, des chansons qu'on chantait d'ailleurs sur scène depuis le début. Donc on avait envie de les enregistrer. Et puis la matière elle est assez, finalement assez facile, puisqu'on la tire de un peu de l'observation de ce qui se passe autour de nous, quoi, tout simplement, quoi, comme des illustrateurs, on va dire. Voilà. Quand on a les choses, c'est facile à faire, finalement.
Ouais, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous disent, comme toi, le deuxième album est sorti rapidement, tout ça. Déjà, je sais pas, il y a presque 2 ans entre les deux, quand même, d'un enregistrement à l'autre.
Ouais.
Et en même temps, il est différent, oui, sinon...
Non, mais on va moins travailler.
C'était pas les déchets de Mademoiselle Marseille, quoi, tu vois. C'était aussi l'envie de raconter d'autres choses et de voilà, d'avancer.
Non, mais je voulais pas dire justement en tant que déchet. Je voulais dire que la matière autour de on va dire notre ligne de conduite, un peu notre cahier des charges, était importante. Et je pense qu'elle est même, on peut encore l'exploiter largement.
Vous pourriez nous présenter un petit peu les autres membres du groupe, puisque c'est un
alors
groupe
avec
quatre.
Voilà, il y en a deux qui sont pas là. Donc il y en a un qui est pas là parce qu'il habite loin. Il habite au Brésil. Il s'appelle Jamilson. C'est un percussionniste qui est là dès le départ de l'histoire, parce que un peu comme à l'image de Banjo, le disque aussi, on voulait se faire se catapulter plein d'influences différentes. Donc c'était assez marrant de demander aux Brésiliens de travailler sur un truc qui était plutôt d'inspiration blues. Et donc ça donne une espèce de, on va dire, de relecture du blues, mais on verra ça tout à l'heure d'ailleurs, de relecture du blues à la brésilienne. Et puis il y en a un qui n'est pas là parce que alors lui il est très 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 loin, donc il est à La Ciotat et il s'appelle Zerbin. Il est batteur, on l'emmène pas parce que voilà, il fout le why.
C'est peut-être le plus proche de Banjo finalement.
Ouais,
c'est dans sa vie de tous les jours.
Voilà. Donc il faut qu'il tape sur des
ça
trucs
promet.
Quand il est. Voilà. Donc on est quatre maintenant.
Ouais, sur scène on est trois. Jamilson ne pouvant pas être là, c'est vrai que Zerbin a pris le relais. Mais pour parler de Jam un petit peu, c'est vrai que quand on a monté ce projet, donc c'était dans ce souci de pouvoir jouer n'importe où, n'importe quand. Donc il a été composé sur le son divin chez Tatou, quoi, tu vois, avec une guitare, une voix. J'avais un vieux 4 pistes à bande, donc vraiment c'est sorti de là le projet. Et on s'est dit, tiens, si on devait orchestrer, qu'est-ce qu'on mettrait? Finalement, tous les instruments harmoniques, on avait envie que ce soit des cordes, donc on a oublié les harmonies. Mais on avait besoin de quelque chose de percussif et de rythmique. On a pensé à Jamilson de suite, parce que voilà, avec ce qu'il pouvait lui comprendre de ce qu'on avait envie de faire. On ne lui a rien imposé, s'il est arrivé comme ça, il a écouté une semaine avant les maquettes, il a dit, j'ai compris. Voilà.
Votre prochaine date sur scène, c'est vendredi, si je ne m'abuse.
À Salon.
Vendredi, ouais. À Salon.
Au Portail Coucou.
Au Portail Coucou, avec un groupe qui joue avec nous,
ouais,
qui est excellent, qui s'appelle
Jim Murple
Memorial. Ouais. Voilà. Alors, pour les gens qui aiment le rocksteady, les trucs vraiment classiques et vraiment acoustiques, là, c'est vraiment c'est super, avec une chanteuse terrible.
Je crois qu'ils sont allés jusqu'à s'équiper avec du matériel vintage pour vraiment sonner comme à l'époque.
Écoute, ouais. La dernière fois que je jouais avec eux, j'avais peur de casser leur truc, quoi.
Il m'a prêté l'ampli, ouais, j'ai eu
ouais,
peur aussi.
Je me laissais tomber en poussière.
Pour la petite histoire, toutes les basses de notre nouvel album Forever Polide sont faites par Romain, qui est le guitariste de Deep Purple.
D'accord.
Et on avait fait aussi un duel avec Tatou et Nanou, la chanteuse de Deep Purple, qui n'a malheureusement pas pu être édité sur ce disque pour des raisons de droit. Voilà. Pas par nous ni par eux, mais par les ayants droit. Donc voilà.
Un groupe qui se...
Donc peut-être que samedi soir, il y aura une surprise sur scène.
À Salon de Provence, au Portail Coucou.
Samedi soir aussi, il y aura une surprise à Marseille, au Balthazar. Parce que ce sera le Noël de la tchourme, là. Donc ça va être terrible, ça aussi.
Allez, on écoute un extrait de Forever Polida.
Écoutons.
Quand on n'a que des bons amis, on se retrouve après, toujours en direct, dans le Coton Club.
Quand tu n'as que des bons amis, tu crains des gueules, tu crains des gueules. Lei sola. Quand tu n'as que les bons amis, tu crées des gueules. Quand tu n'as que les bons amis, tu crées des gueules.
Come leggende la città, e mi manco che la metà. Lei so cure. Lei sana, lei sa cura.
Quand tu n'as que des bons amis, tu crées des gueules. Quand tu n'as que des bons amis, tu crées des gueules.
Se eu te farei o pago me gaire, se eu pistache e pague ne gaire. In bega paz in ganaie e non vuoi pa me na na jai
cantina che le vuoi dami tu credi che ci credi che cantina che le vuoi dami tu credi che
sa schere gente la suta quanto che la metà l'uomo che fa da se sbiglia se ne va a cagare la vigna
cantina che le vuoi dami ci credi che cantina che le vuoi dami ci credi che when you got good friends, heaven stay right by your side. Give all your passion, love and treat her right. I'm mistreating my baby, and I can't see no reason why. Baby, I may be right or wrong.
de l'histoire musicale en direct, de Moussuté et les Jovens à Robert Johnson, et de Robert Johnson évidemment à Moussuté et les Jovens.
Ouais, ça avait beaucoup de sens pour nous parce que moi déjà je viens j'ai des influences rock et tout le rock des années 70. Donc Robert Johnson a beaucoup influencé tous les gens qui m'ont influencé. Et c'est vrai qu'après en rentrant dans Massilia, tout ça, bon, j'ai découvert plein de trucs. Et cette envie de retour un peu au blues avec Tatou, avec Moussuté et les Jovens, ça passait aussi par Robert Johnson. Et un jour de tournée dans le bus, il m'est sorti ce truc-là. Voilà, quand tu n'as que des bons amis, tu crains des gueules. Comme s'il avait chanté lui. Voilà.
Ah ben bravo. Ah,
c'est
bravo.
Parti de ça.
Ah, c'est un bravo.
Un grand monsieur.
Robert Johnson, qu'on pourrait aussi comparer à Banjo, hein, le personnage éponyme de ce livre de Claude Maquet, avec une vie dont on sait peu de choses, à part qu'elle fut sans doute plutôt dissolue, risquée, pleine de musique.
C'était un mec passionné par son instrument et ce qu'il avait envie de faire. Je crois que sa vie, il l'a laissé gérer par les autres. Dans le film là, de Scorsese, à un moment donné, il y a un gars qui a bien connu et qui lui disait, voilà, le matin je le réveillais, j'y allais, Robert, on y va, on va jouer. Et il se levait, il allait jouer, mais je pense qu'il ne savait pas où il était, ni ce qu'il devait aller faire à part jouer de la guitare.
Après, en plus, par rapport à Banjo, il y a quand même cette dimension de parolier, quoi, de chansonnier. Banjo, lui, c'est un instrumentiste, je le vois comme ça, moi. C'est une espèce de virtuose du banjo, justement. Alors que là, il y a aussi cette capacité en quelques... En faisant un truc qui paraît finalement très simple, c'est-à-dire que vraiment qui peut toucher tout le monde, y compris les gens qui comprennent pas la langue, c'est-à-dire que le phrasé est d'une telle puissance qu'il dépasse même la barrière de la langue, et ça résume la vie. Chaque chanson est un petit mini résumé de la vie. C'est extraordinaire, quoi.
Alors Robert Johnson, que vos oreilles chéries ont eu la chance d'entendre à l'instant sur la scène du Cotton Club, faut quand même savoir que ces enregistrements figurent un peu comme des enregistrements complètement historiques du blues, hein, puisque c'est, je sais pas si on en a trouvé d'autres depuis, mais c'était jusqu'à il y a quelques années, c'était les plus anciens enregistrements.
Je crois que c'est les seuls
de blues.
Enregistrements, ouais.
En tout cas, ceux de Robert Johnson, une quarantaine de titres qui font toujours figure de référence pour. Et les guitaristes du monde entier, y compris les Clapton, etc., qui s'y réfèrent encore. Et comme le disait Tatou à l'instant aussi, en termes de contenu, de charge émotionnelle et de parole, ce sont tout simplement des standards enregistrés, évidemment, à l'époque, ce qui explique la qualité du son un peu douteuse, entre guillemets. Mais vraiment, vraiment, il y a eu plusieurs éditions, en général en double CD, des enregistrements de Robert Johnson. C'est à voir absolument dans sa discothèque. Quoi.
Ouais.
Alors on va aller vers une revisitation plus actuelle du blues avec Little Axe. Little Axe, c'est un projet emmené par un guitariste qui s'appelle Skip McDonald. Il sort un album là tout récemment, mais on a préféré vous passer un extrait de son premier disque qui s'appelait The Wolf That House Built. Un titre un peu intraduisible puisque c'est une sorte de jeu de mots. En tout cas, c'est un hommage à Howlin' Wolf et à Son House, de figures tutélaires du blues aussi. Il faut savoir en même temps que Skip McDonald, le guitariste en question, il a aussi été un peu aux origines du hip-hop puisqu'il faisait partie de ce groupe qui jouait, je crois, avec le Sugar Hill Gang. Enfin, ces standards hip-hop qu'on connaît tous avec des tournes funk disco derrière, c'était lui à la guitare. Je ne sais plus si c'était Grandmaster Flash ou enfin, excusez mon inculture. En tout cas, on continue avec ce titre Another Sinful Day, extrait du premier album de Little Axe, qui était sorti à l'époque sur M&G Records. Leur nouveau disque est sorti sur Real World, le label de Peter Gabriel, puisqu'apparemment, Blue, tu nous expliquais que le mixeur du disque, en fait, qui n'est autre que le sorcier dub Adrian Sherwood, il travaille pour Real World maintenant.
Ouais. C'est ce qui se raconte dans la Ciota.
Ouais.
Ce que je vous disais, mais après...
Donc voilà, Little Axe à découvrir sur M&G Records ou bien sur Real World et maintenant sur la scène du club. Who can say only good goes so day? Banjo par Claude McKay, page 135. À Paris et ailleurs, les touristes étaient l'objet d'hostilité. Le franc dégringolait et les nations anglo-saxonnes, selon la presse française, en étaient en partie responsables. Le vent de panique avait soufflé jusqu'à Marseille, la ville la plus internationale du pays. La veille encore, ces mêmes journaux endormaient la foule, instruite mais incapable de réfléchir par des propos apaisants. Aujourd'hui, ils abreuvaient les mêmes multitudes de propos belliqueux. Et en jugé par l'excitation dans l'air, cette foule était tout aussi disposée à accueillir ceci que les deux singes blancs postés au coin de la rue. Riri encore, de toutes ses dents. Et une fille de l'autre côté de la rue prit cela pour elle et lui rendit son sourire. Mais il riait en pensant au monde des nations civilisées qui, tels des tigres, tenaient en réserve leurs griffes puissantes et acérées, dissimulées sous le mince manteau de l'amitié internationale, en attendant la première occasion favorable pour bondir. Dans ses conversations, il se faisait parfois passer pour un Anglais, d'autres fois pour un Américain, selon son auditoire. Il n'avait pas besoin de poser avec le français moyen, parce que celui-ci était totalement persuadé que le noir se trouve plus heureux sous la domination de la civilisation française que partout ailleurs dans le monde. Parfois, rencontrant un Antillais, Ray disait qu'il était américain et l'autre, pas plus que ses compatriotes blancs, ne pouvait résister à la tentation de prendre un air protecteur. « Vous serez bien traité ici, ce n'est pas comme en Amérique. » Pourtant, lorsqu'il se trouvait en public avec l'un des membres de cette élite noire qui parlait un peu anglais, celui-ci priait souvent Ray de parler cette langue de préférence au français. Lorsqu'il demandait pourquoi, la réponse était invariablement « parce qu'on nous traitera mieux » et non pas comme si nous étions des Sénégalais. Ray avait subi une profonde transformation depuis qu'il avait quitté l'Amérique. Il trouvait du plaisir à être un noir errant, sans attache patriotique ou familiale. Il pouvait se faire passer pour ceci ou cela, sans être en réalité quoi que ce fût de défini. Cela l'amusait. Parfois, le fait de devenir le protégé d'autrui devenait la substance de ses méditations. Quelquefois, c'était une expérience embarrassante qui privait ses émotions de leur sens.
Haïtien rassemblé, pas d'une pas mêlé. Oh, haïtien rassemblé, nous tous concernés. Pour ça pas bon, pour ça pas bien passé. C'est nous tous qu'à prier. nek vayan da iti pa di pa mele. O nek vayan da iti nou tout konsene. Pwè 200 an nou chante liberté. Men ki kote nou ye. Sans un pays mal à toucher, sous cette chambre à chanter. Moi mal à coucher, pas à lever.
Après Little Axe et le morceau qui s'appelait Another Sinful Day, après une lecture qu'on espérait pas trop laborieuse de Monsieur Watt d'un extrait de banjo, on vient d'entendre Beethoven au basse, qui, tout comme Ray, le personnage, un des personnages principaux de banjo, est haïtien. Haïtien, terre, j'oserais dire, terre d'émigration, très importante. On trouve des Haïtiens un peu partout sur la planète. Et pour cause, c'est aussi une terre qui subit depuis longtemps maintenant, presque depuis son indépendance, il y a un peu plus de 2 siècles, je crois, l'influence implacable est plutôt... on ne dirait pas toujours bien intentionné des certaines nations occidentales, un pays qui se retrouve être l'un des plus pauvres de la planète aujourd'hui. Un pays auquel Beethoven au basse lance un appel au rassemblement de son esprit et des forces vives du peuple pour que ça change là-bas. C'était un extrait d'une compilation qui s'appelle Nouvelle Vague Créole, l'autre son des Antilles, avec pas mal de choses intéressantes, bien loin du zouk et des choses genre compagnie créole qu'on nous sert à tire-larigot, vous voyez ce que je veux dire, dans les canaux de diffusion dominants d'aujourd'hui. Voilà. On va continuer toujours avec nos invités, Blue et Tatou.
On est toujours là.
Je voulais juste faire remarquer que dans le passage que tu as lu, à un moment donné, il dit Marseille est la ville la plus internationale du pays. Et c'est super ça, voilà, tu vois, il n'a pas dit Paris, hein, il a dit Marseille est la ville la plus internationale du pays. Il a résumé la France en une phrase. Merci Maquet.
On continue avec une de ces sélections de tatou qui là marque, c'est un peu pour marquer l'aspect, en tout cas l'inspiration internationale de la musique de Moussuité et les Jovens, qui se réfèrent justement à cette période à Marseille, mais aussi à aujourd'hui, puisque c'est toujours une ville très internationale. Et vous avez un percussionniste brésilien.
Oui, ouais, là, il y a même beaucoup de rapports. C'est-à-dire qu'il y a à la fois notre propre rapport au Nord-Est, parce qu'il se trouve que le Brésil, c'est un grand pays. Donc, nous, on s'intéresse plutôt à une partie du Brésil qui s'appelle le Nord-Est, qui réunit quatre États, un peu, on va dire, en dessous de l'Amazone, en gros.
Au Nord-Est.
Voilà, au Nord-Est. au Nord-Est, qui s'appelle le Nord-Est. Oui. Et qui est un endroit qui est un endroit fantastique, parce que c'est un endroit où il y a énormément de traditions d'improvisation et qu'il y a au moins, une trentaine de genres différents d'improvisation. C'est-à-dire que presque toute la musique, presque tout le chant est improvisé. Alors, improvisé au tambourin, improvisé à la guitare, improvisé avec des formations plus importantes. Et il y a une de ces traditions qui s'appelle le repente, donc qui est une tradition qui est faite à la guitare. Et c'est à la fois donc un truc qui a beaucoup de rapport avec nous, puisque c'est une expression dans une langue latine, donc qui est finalement assez facile pour nous autres, et qui a aussi un rapport vraiment très fort avec le blues, sans l'avoir jamais rencontré en quelque sorte. Donc voilà, c'est une gemedeira, ça veut dire une lamentation, un sulome, on dit en provençal. Un blues. Voilà, allez, on attaque.
Quel héritage.
Eu no lugar de Ricardo quero ir substituindo a mulato de Santinha como seu sembrante lindo, que cada verso que faz, ai ai, oi oi, parece o céu se abrindo. Preciso nos acordes da viola. Quem canta seu sentimento no momento se controla. É melhor gemer cantando ai ai oi oi do que lá pedindo esmola.
Eu deixo a minha escola, deixo o pai, deixo o irmão, deixo o dia e parente.
Gêmeo cantou na canção, num triste despenhadeiro. Também você quer ver gemer, é a vida de um vaqueiro. E gemer é o repentista, ai ai, ui ui, quando canta e não sai dinheiro.
O poeta brasileiro que vive traz arrepentinho na sua profissão.
Gemi com a mente um doente na cama de um hospital. Gemi um pobre cantador quando canta sem plural. Que luz de fora dizendo ai ai, oi oi, tá fraguinho e vai pra o pau.
Gemi o gato no curral, gemi o galo e a galinha. O menino na escola gemi. Mas quem vê gemer poeta,
gemer santinha junto a Misaia e o Cardoso. Que cada qual na viola geme sem ser nem manhoso, admirando os poderes, ai, ai, oi, oi, de Jesus Pai Poderoso.
Gemo homem talentoso que vive lá no sertão, o vaqueiro quando está vestido no seu gibão. Mas por essa quando gema, ai, Jesus, ui, é por causa da profissão.
Sanda chaku me fu amagaka nisi mayaku na sanda hamadi. Wallahi, shankare bari.
souvent dans le Coton Club, on a traversé l'Atlantique en un clin d'œil du Brésil au Mali. Des repentistas du Nord-Est au, j'allais dire au blues. Enfin, on peut comparer ça à du blues, ça a été beaucoup fait un peu facilement peut-être.
Du blues au blues. Enfin, on est retourné en Afrique finalement.
Avec Ali Farka Touré.
Ça devait arriver.
Et ça, c'est un extrait de Savane, le dernier disque qui est sorti de manière posthume.
Le dernier, je crois.
Je crois qu'ils sont en train d'en préparer un autre.
Ouais, j'imagine.
C'est vrai que Savane est particulièrement beau.
Ouais, c'est un très beau disque.
Voilà. Il y en a d'autres, des très beaux disques d'Ali Farka Touré. Celui-ci est très, très réussi. On a écouté Erdi qui ouvre le disque. Vous entendez en ce moment le morceau Savane même dans la programmation des 3-8 qui parle d'immigration et de son premier contact avec la France, métro, tout ça. Voilà, on espère que cette émission qui touche à sa fin dans le Coton Club vous aura donné envie de vous pencher un petit peu sur Banjo de Claude Mackay.
Ce qui est relativement dur parce que bon, on n'aura pas tout dit, mais c'est vachement dur à trouver en fait. Voilà, je vous le dis.
André Dimanche,
ça a été réédité en 99, donc et l'édition de 99 est introuvable.
D'accord.
Donc voilà. Je voulais vous dire que je vous souhaite une bonne chasse. Essayez l'internet, essayez ce que vous voulez. On le trouve très facilement en anglais parce que ce type, il a quand même écrit en anglais. Donc,
c'est les bouquinistes.
Si vous lisez l'anglais, pas de problème. Sinon, c'est assez dur à trouver. Alors qu'on trouve la facilement, par contre, la biographie de Claude Mackay, l'histoire de sa vie, qui est une vie vraiment formidable, qui s'appelle Un sacré bout de chemin, aux éditions André Dimanche d'ailleurs, qui a été traduit par le même traducteur qui a fait Banjo. Voilà, ce livre-là, on peut le trouver. Banjo, c'est dur, il faut se... Voilà, mais faut souffrir pour...
Si vous galérez trop pour trouver Banjo, on peut se rabattre sur Albert Londres, qui est pas mal non plus, Marseille, Porte du Sud.
Ouais,
et pour les amateurs de blues, un livre de Leroy Jones, qui est un livre sociologique, mais super intéressant.
Le peuple du blues.
Il faut faire une... Je pense que si tout le monde gueule, on pourra peut-être avoir la réédition de Banjo.
On peut se rabattre aussi sur les disques de Moussuté et les Jovens, s'il nous reste 2 minutes, donc on va écouter un dernier extrait de Forever Polida.
Rabattons-nous, puisqu'on était en Afrique, c'est un morceau qui est fait face à l'Afrique, de la Ciota, quand on regarde en face, on voit l'Afrique et voilà.
Moussuté et les Jovens, à Salon de Provence avec le Jim Murple Memorial, c'est ce vendredi.
Vendredi.
22 décembre, au Portail Coucou. Merci beaucoup.
Merci à toi pour l'invitation.
Allez, on vous laisse.
D'être venu dans le club ce soir, on écoute un dernier extrait de Forever Polida, Moussuté et les Jovens.
L'altitude avant la maxime d'un jardin loupé li mène à l'aventure la nord li trace le destin. Si devina maxia, besai l'esquina d'un dolfi, lo seu che torna dal giria, grida lei nova domattina.